passage de la Bible dont on a le plus sciemment entendu le sens pour arriver à lui faire dire ce qu'il ne signifiait pas est sans aucun doute Matthieu 24. Les spéculateurs doctrinaux de tous bords ont depuis très longtemps tenté, dans le précipité de symbolisme, de trouver dans ce chapitre un support à leur théorie fantaisiste. Ceux qui enseignent le millénarisme sont extrêmement prolixes quant au signe des temps et ils reviennent invariablement à Matthieu 24 pour le définir. Ce chapitre n'est pas facile, ce n'est un sujet pour personne. Comme toujours, nous choisirons la méthode la plus logique, c'est-à-dire d'utiliser pour nous éclairer la lumière qu'apporte toujours le contexte. Le ministère personnel de Jésus donne lieu vis-à-vis des dirigeants juifs à un conflit qui ira sans cesse en s'amplifiant. Le rejet obstiné dont le Fils de Dieu est l'objet va remplir goutte à goutte la coupe de l'iniquité commise à son égard par les Juifs. Elle débordera bientôt. Jésus avait dit « Déjà la cognée est mise à la racine des arbres ». Les paraboles citées en Matthieu 21 mettaient l'accent sur le fait que les Israélites seraient exclus des faveurs de Dieu, tandis que par contre d'autres entreraient dans le royaume. Dans celle des vignerons, Jésus déclare « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné » à une nation qui en rendra les fruits. En Matthieu 22, une série de débats s'engage entre le Seigneur, les pharisiens et les sadducéens qui sont réduits au silence. Ils se voyaient dans l'impossibilité de réfuter les arguments présentés et trop entêtés que pour accepter tout simplement la vérité. Ils s'entendent alors signifier en Matthieu 23 une sentence détaillée, explicite, tranchante sur leur comportement. Les versets 31 et 32 résument l'opinion que Jésus a d'eux. Vous attestez donc vous-même que vous êtes bien les descendants de ceux qui ont fait périr les prophètes. Eh bien, continuez donc dans leur ligne. Finissez ce que vos pères ont commencé. Portez leur œuvre à son comble, dit Jésus. Dieu avait fait preuve d'une bonté incroyable, mais leur refus catégorique et sans appel d'accepter Jésus comme étant le Christ annoncé reculait encore les bornes de l'impossible dont seul l'Éternel est capable. La coupe était pleine et la patience divine prête à déborder. Et cependant, alors que la justice eut exigé la destruction de Jérusalem, ainsi que de tout ce qui touchait de loin ou de près au judaïsme officiel, la tendresse de Jésus-Christ éclate encore dans les paroles qu'il prononce. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Mais ensuite vient malgré tout un avertissement. Maintenant, je vous laisse à vous-même. Leur approche va se réaliser. Ce que Jérémie a prédit, votre temple va être complètement abandonné et restera désert. Puis au sortir du temple, le Christ dit encore en parlant de cet édifice religieux, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici terre sur terre qui ne soit renversé. Telles furent les paroles de condamnation en ce qui concerne le judaïsme. La compréhension de Matthieu 24 passe par la question que les disciples soulèvent au verset 3, et l'élément de temps ou d'époque est déterminé par le verset 34. Admettre ou reconnaître ces deux facteurs prédominants serait revenir à une vision saine des choses et écarter les innombrables théories pernicieuses sur les prétendus signes des temps. Le temple était une construction tellement monolithique, à ce point massive et imposante, qu'on imagine sans peine les apôtres songeant au fait que cette destruction ne pouvait être qu'un des résultats du retour de Jésus et de la fin des temps. Ils dirent donc tout naturellement, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus va diviser sa réponse en deux volets distincts. Tout d'abord, la destruction de Jérusalem durant laquelle pas une pierre ne restera debout dans le temps, et qui va survenir avant qu'une génération ne s'écoule. Cette génération, dit-il, ne passera point que tout cela n'arrive. Et ensuite, en ce qui concerne le signe de son retour et de la fin du monde, les versets 36 à 51 du chapitre 24 montrent que rien, absolument rien, ne permettra de les prévoir. Ils seront tout à fait inattendus. Prendre les indices précurseurs de la destruction de Jérusalem, mentionnés dans la première partie du chapitre, et les appliquer au retour de Jésus ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Cela se produira, continue le chapitre 24 de Matthieu, comme au jour de Noé, lorsque le déluge survint. Les hommes de l'époque ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Verset 39. On soutient parfois l'idée que le mot génération, dans la phrase de Jésus, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive, désignait la nation d'Israël. Elle n'était nullement limitée à une génération particulière de Juifs. Le terme génération n'est pourtant jamais employé dans les Écritures pour indiquer une succession de générations. Un examen de l'utilisation de ce mot dans l'Évangile, selon Matthieu, le prouve indiscutablement. En Matthieu, chapitre 23, verset 36, il est d'ailleurs dit, je vous le dis en vérité, sous cela retombera sur cette génération. Il découle donc de tout ceci, à la fois par le contexte et l'usage du mot « génération » dans d'autres passages de Matthieu, ainsi que dans d'autres endroits des Écritures, qu'il est vain de vouloir attribuer à ce terme une signification différente de celle donnée par Jésus. Tous les signes décrits jusqu'au verset 34 devaient se réaliser durant cette génération-là. Cela concernait spécifiquement la destruction de Jérusalem et non le retour de Jésus et la fin des temps. Jésus annonce qu'avant la destruction de Jérusalem, plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ ». Verset 5. Un certain nombre de personnages apparurent parmi les Juifs pour tenter de fomenter des troubles. Ils soutinrent leur prétention à l'autorité en faisant croire qu'ils étaient le Messie. Et Simon le sorcier, cité en acte 8, voulait se faire passer pour Jésus avant de se convertir en lui. L'historien Flavius Joseph relate plusieurs faits similaires. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Verset 6. À cette époque, la révolte grondait et éclatait dans de très nombreuses parties de l'Empire romain, voire la totalité. De plus, les Juifs, excités par les Zélotes, se livraient à des guerres intestines qui allèrent en s'amplifiant tandis que le siège de Jérusalem se précisait toujours davantage. Le verset 7 prévoit qu'il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Acte 11, 28 parle d'une grande famine qui arriva en effet sous Claude. 15 ans plus tard, il en surgit une autre qui fit cruellement souffrir les chrétiens de Jérusalem. Flavius Joseph, contemporain à cette époque, en parle aussi. Des tremblements de terre eurent lieu avant la destruction de Jérusalem, dont un en 36 avant Jésus-Christ, et qui était d'une amplitude extrême. L'histoire nous a conservé le récit de ces séismes, et ont également ravagé la Crète, Smyrne, Mylène, Chios, Samos, Laodicée, Hierapolis, Colosse, les régions de Rome et de Judée. Comme on peut le constater, il serait vain et futile de vouloir situer ces événements au-delà de cette époque précise, de cette génération particulière, car tout cela s'est accompli durant la période en question. Des persécutions, dont la nature est même stipulée, allaient avoir lieu avant la destruction de Jérusalem, versets 9 à 13. Et le début du livre des Actes nous parle des incarcérations diverses subies par les apôtres, de l'interdiction pour eux de prêcher au nom de Christ et de la mise à mort d'Étienne. L'église de Jérusalem doit se disperser. Jacques est assassiné par Hérode. Paul est également arrêté et traité comme le dernier de Paria. Il s'agissait d'une période durant laquelle les chrétiens, quels qu'ils soient, étaient molestés, où de faux docteurs apparaissaient et où l'amour de beaucoup se refroidissait sérieusement. Phygène et Hermogène comptaient parmi tous ceux qui, en Asie, avaient abandonné Dieu. Des masses étaient retournées au paganisme. Nombreux furent ceux qui enseignaient de fausses doctrines. C'était en quelque sorte une épreuve pour l'âme de chaque chrétien. On le devine à certaines exhortations, comme par exemple celle du verset 13. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il va de soi qu'il ne s'agit pas du salut final de l'âme, bien de la délivrance des dangers à encourir lorsque Jérusalem allait être mise à sac. Tout cela constitue une suite d'avertissements, de signes à prendre en considération lorsque le moment serait venu de fuir. sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin, dit le verset 14. Plus tard, on doit attester, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. L'évangile a été prêché à toute créature sur le ciel. Ces passages ont été écrits avant la destruction de Jérusalem. L'affirmation « alors viendra la fin » n'a absolument rien à voir avec la fin des temps, mais bien avec celle de Jérusalem. Jésus dit que la prédication de l'Évangile dans le monde entier serait un témoignage pour toutes les nations. Partout où les pieds des messagers du Messie se posaient, l'Évangile était proclamé, d'abord aux Juifs, puis aux païens. C'est ainsi que le refus des Israélites d'accepter Jésus pour Christ fut connu dans le monde de l'époque. Cela porta à la connaissance de tous que le jugement très sévère sur Jérusalem était conforme à la justice de l'Éternel. Tenter de projeter l'accomplissement de ces signes dans le futur, c'est ignorer les déclarations « on ne peut plus simple, plus clair du Seigneur ». Il le dit, toutes ces choses arriveraient avant qu'une génération ne passe. Une génération, selon le millénarisme, ne peut évidemment être d'accord avec ce que nous venons de voir à propos de la génération. Le mot grec « généa », génération, signifie « race » ou « souche », disent-ils, en mettant l'accent sur ce que Jésus voulait en réalité dire, que la race juive ne passerait pas avant que ces choses n'arrivent. Que le mot « généa » se rapporte à une race ou à une souche est parfaitement vrai, mais tel n'est pas son unique signification. Ce terme veut dire engendrement, naissance, nativité. Dans son sens passif, ce qui est engendré, homme de même souche. Aussi, les différents rangs de descendance naturelle, membres successifs d'une généalogie, d'une manière métaphorique, race d'hommes se ressemblant assez bien en matière de don, but, caractère. Et enfin, dans son mauvais sens, une race pervertie. Ça veut encore dire une multitude de tous les hommes vivant à la même époque. Et ce terme est utilisé spécialement pour la race juive vivant à une certaine ou à une même période. Et c'est aussi l'âge, c'est-à-dire le temps occupé ordinairement par chaque génération successive, époque se situant entre 30 et 33 ans. Et tout cela est extrait d'un dictionnaire, un lexique de grec. Rien ne permet de formuler que lorsque Jésus parla de cette génération, qu'il voulait désigner la race juive à perpétuité. Le contexte est d'ailleurs loin de le garantir. Il est par contre évident que ce terme était employé dans le même sens que Matthieu 23, 36, où le Seigneur dit, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération, faisant ainsi une distinction entre leurs pères. Il est donc clair qu'en Matthieu 24, 34, ainsi qu'en 23, 36, cette génération signifiait la multitude de tous les hommes vivant à la même époque, c'est-à-dire celle de Jésus, et en particulier, bien sûr, les Juifs de ce temps, et non ceux de plusieurs centaines ou de milliers d'années plus tard. Les événements qui survinrent durant les années précédant la chute de Jérusalem et la fin du peuple juif en tant que nation constituée devaient prouver, si preuve il fallait, que tout, absolument tout, s'est accompli selon les paroles du Seigneur.